TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante et c'est parti pour une émission de TimeFoot spéciale Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En ce 27 janvier 2022, et oui, jeudi soir, décryptage des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le discours incroyable du fameux président de la FIFA, qui n'est autre que l'Italo-Suisse, Gianni Infantino, sur l'Afrique, le continent africain. On parlera aussi de cet Étienne qui se réveille dans cette Ligue 1 Uber Eats. On aura Kevin Vessière, justement, avec nous, de Football Club Géopolitique, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. N'oubliez pas le numéro du standard, le 0153483000, pour réagir avec nous. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne, sur l'antenne nationale qui est Beurre FM, la radio de la diversité. Avant cela, avant de démarrer notre émission, on va démarrer avec le JT Sport qui a été réalisé par Jason. On y va.
Time Sport.
Oui, on démarre les infos du jeudi par la Coupe d'Afrique des Nations et les tragiques incidents qui ont eu lieu avant le match entre le Cameroun et les Comores, qui ont fait 8 morts et une cinquantaine de blessés. La CAF a décidé de délocaliser certains matchs des quarts de finale prévus au stade Olembe en direction du stade Amadou Ahidjo. Des nouvelles de l'affaire Benzema Valbuena, bien que le jugement ait été prononcé en novembre dernier, l'attaquant du Real Madrid a été saisi de 230 000 euros sur son compte par la justice. Il s'agit du montant qui sera versé à Mathieu Valbuena en préjudice moral, ainsi qu'à remboursement des frais de justice de la partie civile. En tennis, l'américaine Danielle Collins a créé la surprise en dominant la polonaise Iga Świątek en puissance ce jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. Victoire en 2-7, 6-4, 6-1 et une place bien évidemment en finale samedi face à Ashley Barty. Chez les hommes en double, les Australiens Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis se sont qualifiés eux aussi pour la finale en battant le duo hispano-argentin Zeballos et Granollers en 2-7 et affronteront donc leurs compatriotes Max Purcell et Mathieu Ebden pour un duel 100% Australie. Voilà, c'est tout pour les infos du jeudi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Merci à toi Jason. Voilà, le début de cette émission avec Sarah qui nous accompagne ce soir. Comment ça va Sarah, notre consultante ?
Bonsoir Bilal, ça va très bien et toi ?
Ah ben ça va très très bien. Voilà, on a le retour de Fala avec nous, notre consultant. Comment ça va Fala ?
Nickel, ça va super.
Oui ? On dirait pas trop, ça va super. Non, Fala, ça va super, on y va. Non, allez, il faut s'affirmer là. Ça va super.
Il m'a congé là ces derniers temps.
Eh oui, il est en congé. Mais il n'a pas loupé des matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Boula est avec nous. Comment ça va Boula ?
Alhamdoulilah,
ça va, voilà, on l'aura compris.
Je remercie Nassera et Amar de m'avoir déposé.
Oui, Nassera et Amar. Des amis ?
Des amis.
Ah ben
des
voilà.
Gens bien.
Ah ben des gens bien. Ouais. Ah ben y a pas de problème.
Des rayons de soleil.
Oui, des rayons de soleil. Tout comme Kevin qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelait en introduction. Comment ça va, Kevin ?
Bah ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir et puis hâte de parler d'Infantino, de la Coupe d'Afrique.
Ouais, il y a tant de choses à dire.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ces dernières semaines, ces derniers mois, même aller sur la saison si je peux me permettre. Ouais. Dans le football, il y a beaucoup de choses.
La géopolitique, ouais, avec le, on parle notamment de Newcastle aussi, tu vois, avec l'Arabie Saoudite.
Mmh. C'est vrai. Chose à dire, ouais. Ouais. Ce qu'est la géopolitique dans le sport. On verra ça avec Kevin Vessière de Football Club Géopolitique. Mais le premier sujet de cette émission avec Yanis, on y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Eh oui, le décryptage de ces fameux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec toi, Sarah, on le rappelle. La Gambie, enfin la Cameroun, ce samedi, 17h. Le Burkina, Tunisie, aussi avec les Aigles de Carthage, à 20h. Égypte, Maroc. Là, ça va être assez chaud. Dès dimanche, 16h. Et le Sénégal, Guinée équatoriale, dimanche à 20h. Sarah, lequel des matchs tu regarderas ou tu vas tout regarder à mon avis.
Tous les regarder, ouais. Je pense. Hein. Ouais. Après, il y a des matchs qui sont quand même un peu plus tentants que d'autres, j'ai envie de dire. Mais cette coupe, cette CAN nous a montré qu'il n'y avait pas de petite équipe et qu'on aura du beau spectacle, je pense, lors de ces quarts.
Oui, on a été surpris par certaines nations. C'est ça, Boula. Oui, le Burkina, il est toujours là. La Gambie aussi. Mmh. Yacine nous disait de faire attention à ses équipes. Voilà, Boula. Oui.
Je pense que c'est logique. Là, t'as le Maroc qui
pour nous, c'est pas logique, parce que logique, on devait voir l'Algérie dans ces quarts de finale. Il n'y a pas de logique, non, Boula ? On n'est pas d'accord déjà d'entrée.
On a eu du mal à gagner contre le Burkina pour la qualif, pour la première place. Après, faut pas oublier.
Burkina, c'est pas mal.
Faut pas oublier que tu prends l'Égypte, ils ont l'habitude des grands. Aujourd'hui, ils ont un grand gardien qui a fait la différence avec l'Égypte contre la Côte d'Ivoire.
Je pense qu'on a un peu trop mis la Côte d'Ivoire dans cette position de favorite, alors que Bah alors, la Côte d'Ivoire, on retient surtout son match contre l'Algérie. Ils ont quand même fait un très beau match. Peut-être pas le match de leur vie, mais c'était un très beau match. Après, contre la Guinée équatoriale, c'était qu'un but, avec des de grosses parades de Sangaré. Contre la Sierra Leone, un match nul. Donc, cette position-là, je la comprends pas trop, surtout que l'Égypte, c'est quand même recordman de la CAN. Bon, en 2019, c'était un peu compliqué, où ils sortent en huitième contre l'Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est quand même l'Égypte, hein. C'est pas...
Ah justement, c'est pas l'Égypte, c'est le Maroc, voire la Tunisie avec le Burkina.
C'est un nom, Kairos. Hein.
Ouais.
Kairos, c'est quelqu'un qui a fait les.
C'est un gros salaire aussi, Kairos.
Oui, mais c'est quand même quelqu'un.
Avec le coach Vaïd.
Qui a une expérience à Barcelone, c'est un mec qui a une expérience à Manchester United. Et puis c'est quand tu regardes son équipe qui est vachement disciplinée, ou quand tu regardes Vaïd aussi avec le Maroc. J'ai aimé aussi le coach de la Tunisie parce que pareil, c'est des équipes vachement disciplinaires. Et ça part pas dans tous les sens, c'est cohérent tactiquement, et c'est ce qui est bien, c'est quand tu vois le résultat de ces matchs, ils sont là au bon moment.
Enfin là, ils sont là au bon moment. On a l'impression qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils font là aussi à ce moment-là. Si je peux me permettre, hein.
Ouais,
je n'énigre pas ces nations, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se demandent encore. Voilà, on est là, on est arrivé.
Aujourd'hui,
on a fait sortir des ogres.
Encore une fois de plus, déjà d'une, il n'y a plus de petites nations.
Ouais.
Les joueurs, ils sont expatriés un peu partout.
Ouais.
On va dire en Europe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit la Guinée équatoriale. Personne ne s'attendait à les voir là. La Gambie aussi, c'est pareil. Première participation et ils arrivent en quart de finale. Donc, pour dire que le niveau, il est relevé. Maintenant, après, il y a l'Égypte qui répond présent, la Tunisie qui monte en puissance aussi, alors que je ne les voyais pas du tout.
Bien arriver. Sûr, ouais. On en parlait hier avec Yasmine.
Ouais, exactement, et je les voyais carrément pas arriver là.
Ils sont là.
Et ils sont en train de monter encore bien plus en puissance, je pense. Et le Maroc, bien sûr.
Ouais.
Comme
les Marocains.
Boulard, je l'avais dit de toute façon avant la compétition, le fait que Vaïd a écarté certaines stars de
notamment Ziyech.
Ouais, je pense que la star, en fait, c'est le collectif. Voilà, en fait, ils marchent tous ensemble. On voit bien encore Hakimi, il va se poser des questions quand il va rentrer à Paris, parce que là, c'est eux, ils montent aussi en puissance. Et en plus, je trouve qu'ils montent du caractère. Ils se font mener et ils arrivent à répondre encore présent lorsque, à la 73e, je crois, ils répondent, ils égalisent, un truc comme ça. Donc, ils montent du caractère.
Après, t'as le défenseur central, là, qui joue à Rennes, là. Qui m'a impressionné dans
ces derniers matchs.
Tu sens que c'est un mec de haut niveau et tu sens que c'est un joueur qui demande à prendre de l'ampleur. C'est qui va prendre dans pas longtemps, c'est un joueur qui va prendre de l'ampleur.
Après, le seul petit bémol que j'ai à mettre sur le Maroc, c'est je trouve qu'il tue les matchs plus vite. Parce que c'est costaud au milieu de terrain, défensivement, devant aussi, mais ça marque pas assez.
Ouais, face à l'Egypte, ça va être dur aussi.
Il y a eu un match de poule où il pouvait en mettre 8.
Ouais.
Il se contente d'un 2-1, je crois, encore une fois de plus. Mais le Maroc.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit peu des soucis devant.
C'est juste ça, c'est le petit bémol que par rapport à l'Égypte, où j'ai encore une fois de plus, où l'Égypte, je pense que ça va finir dans le dernier carré, c'est la demi-finale.
On va voir.
Je pense.
On va regarder l'Égypte passer face au Maroc.
Alors,
faut faire attention.
Faut faire attention.
Je le dis encore une fois
aux Égyptiens et aussi aux Lions de l'Atlas.
Mais eux, attention, ils marquent.
Et voilà, ils font ça. Attention,
L'équipe surprise.
Oui, Boula. Avant de donner la parole à Kevin, notre invité.
En finale, c'est Burkina.
Le Burkina, selon Boula et selon Kevin, justement, c'est quart de finale. Ils en pensent quoi? Vous en pensez quoi, Kevin?
Quart de finale, c'est vrai qu'on voit pas de nouvelles équipes qu'on pensait pas voir là, notamment Guinée équatoriale, Gambie.
Oui,
après, c'est vrai que c'est dans cette CAN, il y a un peu tous les favoris qui tombent. Donc là, moi, c'est vrai que je suis aussi emballé par le Maroc, mais c'est peut-être la prochaine équipe qui peut tomber parce qu'on a vu une équipe séduisante.
C'est Sénégal aussi, il faut faire attention.
Et puis, on a vu que le Cameroun, finalement, il jouait contre une équipe des Comores diminuée, il y a eu un carton rouge en plus, et finalement, il gagne que 2-1. Donc attention à la Gambie, sinon on pourrait avoir des surprises. Hein. Guinée équatoriale, Gambie, c'est quand même des petits pays qui ont moins de 2 millions d'habitants.
Oui, le Cameroun, pays organisateur.
C'est ça, qui font quand même des belles performances. Donc attention à eux, on pourra en revoir une de ces équipes, je pense, en demi. Quoi.
Le Burkina, la Tunisie, on connaît un peu la situation actuelle, géopolitique, si je peux me permettre. Est-ce que ça peut booster une équipe telle que le Burkina ou encore les Tunisiens?
Ouais, je pense, parce que du coup, tu veux donner une image plus positive de ton pays. Donc,
ouais.
Si c'est trop associé à la guerre ou aux tensions politiques qui sont au sein du pays,
c'est ça.
Tu peux avoir un boost pour te dire, bah, regardez, on va gagner cette compétition et puis on va montrer une autre image du pays, un pays beaucoup plus, comment dire, victorieux et qui, avec le sport, finalement, tout est plus beau. Après, par contre, faut pas donner, comment dire, trop d'importance au sport. Ça reste que du sport et du football.
Ouais.
Et ça peut pas résoudre toutes les situations politiques.
Quoi. Les politiques africaines se donnent encore joie avec justement l'aspect sportif, notamment des compétitions telles que la CAN ou encore les phases finales de Coupe du Monde. Ça peut jouer en leur faveur.
Ouais. Ça peut
de telles manifestations.
Ça peut jouer en leur
notamment
faveur.
Notamment là, par exemple, pour le Burkina.
Ouais, pour le Burkina Faso, on pourra voir effectivement si jusqu'où ils vont et s'ils vont loin, ça peut effectivement un petit peu changer l'approche qu'on a du Burkina Faso en ce moment, qui est soumis à des tensions politiques internes. Mais après, on a vu aussi, ouais, effectivement, que la CAN, ça pouvait être des belles histoires, hein, notamment on pense à la CAN 96, l'Afrique du Sud organise, l'Afrique du Sud gagne la compétition.
Aussi.
Et là, c'est vrai que ça a un message, ça montre que voilà, l'Afrique du Sud était un petit peu renaissée sur la scène internationale. Donc là, ça peut donner effectivement un vecteur d'espoir, mais après, effectivement, il ne faut pas tout attendre d'une victoire de la CAN. Ça reste 11 joueurs, 11 footballeurs, et les décisions politiques, après, ça reste les politiques qui les prennent.
Mais il y a un truc, quand tu parles politique, Bilal, c'est bien que tu parles politique.
Alors.
Mais moi, je trouve que quand tu as des matchs de foot,
ça resserre
un peu le peuple dans les victoires. Et c'est ce qui. C'est aujourd'hui, le football.
France 98.
A tellement une ampleur au niveau d'amour pour le peuple et dans le sport, automatiquement les politiques jouent avec ça. Nous en Algérie, on avait eu pas mal de problèmes et c'est ce foot donne ce que le peuple n'a pas et ils arrivent à le trouver dans les victoires, dans la présence d'une Coupe du Monde. C'est minime, mais quelque part, le peu qui sont là, ça donne un peu d'amour au peuple.
Ouais, c'est vecteur, quoi.
Ouais,
en pensez quoi, Kevin?
Ouais, c'est vecteur, et puis il y a ce côté, effectivement, voilà, de rassembler un petit peu la population autour du drapeau, ce que peut parfois pas faire, effectivement.
Ouais, les policiers ont du mal à faire.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ces messages un petit peu d'espoir. Après, effectivement, l'histoire ne sera que plus belle si, par exemple, le Burkina Faso va plus loin dans la compétition, quoi.
On a pas mal d'histoires.
C'est carrément l'opium du peuple de football.
Ouais.
On dit, voilà, même les politiques, tout ça, ils savent très bien que ça soit dans le monde entier. Tout l'argent qui est investi dans le football, c'est quelque part, c'est le seul truc que tu peux donner, que ça soit à Paris, même dans tous les pays, que ça soit en Angleterre. Il y a toujours à un moment donné, ils ont 2 heures de match, et ils ont 2 heures où, à un moment donné, ils sont carrément dans leur bulle au niveau des matchs, et ça leur donne ce qu'ils n'ont pas dans le quotidien, ou le manque, tout ce qui est Covid, tout ce qui est malade, tout ça, et quelque part, ils ressentent un amour qu'ils n'ont pas dans le quotidien.
Les nations, les continents ne sont pas les mêmes, peut-être, Kevin. En Afrique, comme en Amérique latine, ou voire sur le vieux continent européen, vous en pensez quoi? Ouais, c'est vrai, cet engouement du football.
Après, je pense que l'engouement par rapport au football, ça dépend effectivement.
Les zones géographiques.
Il est différent, mais l'Amérique du Sud, l'Afrique, même l'Europe, l'engouement reste effectivement important. Après, effectivement, pour une CAN en Afrique, l'approche qu'on n'a peut-être pas en Europe, c'est peut-être l'importance de gagner une CAN pour un pays africain qu'on n'a pas forcément en Europe. On l'a vu notamment avec toutes les histoires qu'il y a eu en amont de la CAN, avec
un
journaliste qui dénigrait un petit peu cette CAN.
Ouais.
Alors que gagner une CAN pour une nation africaine, c'est vraiment important. C'est comme gagner un euro pour un pays européen. Donc, tout à fait, ouais. La CAN a son importance. Ça dépend après un petit peu des continents. Mais je pense que chaque continent vibre pour le football, peut-être moins en Asie, parce qu'on a. Même après, ça dépend des pays, notamment en Iran. Mais en tout cas, en Afrique, c'est très important. Ouais.
Les retombées que l'on peut avoir en tant que supporter, en tant que même joueur, et aussi même pour la nation, selon vous. Des fois, ça peut griser quelquefois le pays, les relations avec certaines nations, les relations même diplomatiques.
Pour une victoire de...
Des fois, ça dépend, par exemple, des participations, des criées. Admettons là, on va en reparler avec vous après la pause sur le Qatar 2022, des nations qui se prêtent au jeu, de dire « on n'ira pas, on ira ». De mettre un peu la pression à d'autres nations.
Après, les questions.
On est en plein dedans. C'est de la géopolitique du sport aussi.
Les questions qui se posent en ce moment, c'est plus l'organisation des compétitions dans certains pays et dans quelles conditions elles s'organisent.
L'organisation, ça a toujours posé problème, Kevin. Ouais. Vraiment. depuis Coubertin jusqu'à maintenant. Non, mais c'est vrai.
Ah, tout à fait. Non, mais c'est juste que d'autres questions se posent en fait.
Ouais, lesquelles?
Je pense pas, tu vois, par exemple, avec les Jeux Olympiques d'hiver avec Pékin. Tout ce qui arrive en termes de critique au niveau de la Chine, c'est plus au niveau des droits de l'homme.
C'est vrai.
Pour le Qatar, c'est aussi la question des droits des travailleurs et c'est aussi la question écologique. Effectivement, pour chaque compétition qui est organisée dans un pays, il y avait des différentes critiques qui avaient été émises. Là, c'est juste que les critiques sont plus ou moins différentes et on voit qu'il y a un enjeu pour les pays d'accueillir des telles compétitions. Bah, dont on le voit aussi avec le Cameroun et la CAN. Pour eux, c'est important d'accueillir une compétition comme celle-là parce qu'en plus ils devaient l'organiser depuis longtemps et puis à chaque fois ils n'ont pas pu, mais voilà, ça permet de montrer que le pays est capable d'organiser une compétition internationale, ça permet de le mettre au niveau d'un pays, au niveau d'être un grand pays. Et après par contre, bah effectivement, quand t'as le projecteur du continent ou de l'international sur ton pays, et voilà, tu vas forcément avoir les critiques derrière parce que une compétition internationale fait ressortir ce qui est bien dans ton pays mais aussi les critiques que tu peux avoir. Donc il faut aussi les accepter et puis essayer de s'améliorer pour voir comment est-ce que tu peux accueillir au mieux cette compétition.
Ouais, vraiment intéressant. Après, ça va peut-être
après,
une réaction.
Après, quand il parle, quand on parle de des investissements qui sont faits, quand tu regardes l'Afrique du Sud, on dit que c'est le premier pays africain quand tu vois les infrastructures de l'Afrique du Sud, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Et quand je vois à un moment donné les autres pays africains ne sont pas considérés comme l'Afrique du Sud. Mmh. Ne sont pas considérés parce que la gestion de l'Afrique du Sud, elle est gérée plus de l'extérieur que de l'intérieur.
C'est là
où se joue Infantino, quand il parle de, il me fait rire quand il parle de Coupe du Monde tous les deux ans. Après il parle
on
de
va chiffres, parler de
nous, ce qu'on voudrait savoir c'est carrément les chiffres qui sont donnés en Afrique, cet argent a pas sous. Je crois que le problème c'est plus
je crois que Kevin Vessière ne va pas nous le dire où passe l'argent, peut-être. Il va nous le lâcher une bombe là ce soir. Ouais. Peut-être qu'elle a la réponse.
Mais après, effectivement, pour la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, ce qui se passe comme question aussi, c'est de savoir tu organises une compétition, c'est ce qui s'est passé par exemple au Brésil aussi, tu organises une Coupe du Monde, tu organises des Jeux Olympiques. Mais après, derrière, qu'est-ce que tu as comme retombée derrière? Est-ce que les infrastructures vont après servir finalement à la population, à développer le territoire? Ou est-ce que ça va tomber en désuétude, comme ça a été le cas à Athènes, comme c'est le cas au Brésil, à Rio? Et en Afrique du Sud, est-ce que les retombées économiques sont finalement arrivées, à la population, au pays? Pas sûr, parce que c'est vrai que Infantino là se met défenseur de l'Afrique, bon, avec des déclarations qui sont un peu sulfureuses.
Oui,
L'idée derrière cette Coupe du Monde de tous les deux ans, ça reste de faire, d'avoir une compétition qui génère de plus en plus de bénéfices. Son idée, c'est pas forcément de, il veut faire certes l'ouvrir vers le monde. Mais il pense pas forcément au pays, il pense plus au business de la compagnie.
Mais je pense que dans cette gestion, Sarah, vas-y, tu voulais parler.
On va revenir. Tu gardes tes questions. Non, mais on n'a plus le temps. C'est pas Sarah qui décide, Boula, on n'a plus le temps. Moi, j'ai un réalisateur qui me dit, oui, je sais bien, mais là, j'ai plus le temps, Boula. On va faire une courte pause, on va revenir, on va essayer de poser la question de Sarah à Kevin Vessière qui reste avec nous jusqu'à 21h. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Reviens dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on est ensemble jusqu'à 21h, le 01 53 48 3000, pour réagir du côté du standard. Yanis, ce fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. On est avec Sarah Fala Boula et notre invité Kevin Vessière, justement de Football Club Géopolitique. Sarah, on t'écoute. Alors,
moi je voulais revenir sur cette Coupe du Monde au Qatar, et Kevin soulignait très bien les conditions déplorables. On va pas revenir dessus, mais les problèmes écologiques, etc. Mais moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est surtout le discours selon lequel on veut donner de la visibilité au monde arabe, permettre à un pays qui n'a jamais organisé une Coupe du Monde, Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas permettre à un pays où il y a vraiment une culture foot d'organiser cette Coupe du Monde? Je sais pas, le Maroc, l'Égypte, enfin j'en sais rien, mais c'est un peu un discours hypocrite, j'ai envie de dire.
Oui, non, mais après voilà, c'est vrai que la FIFA se défend de cette Coupe du Monde de Qatar pour effectivement l'ouvrir à un autre partie du continent où il l'avait jamais fait, donc le monde arabe. Après, le problème, voilà, c'est que pour accueillir une telle compétition, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Mm-hmm. Et le Qatar avait l'argent derrière. Pour l'Afrique du Sud, ça avait aussi pu se faire, mais c'est vrai que peut-être que l'Afrique du Sud a peut-être plus cette image, d'Afrique qui est plus liée à l'Europe que d'autres pays africains. Donc c'est peut-être pour ça que ça a pu se faire aussi là-bas. Mais après, pourquoi pas effectivement qu'un pays africain puisse accueillir la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'à l'AFM, il y aura des questions financières qui vont se poser. Et c'est vrai que le Maroc se pose la question, s'ils veulent l'accueillir, de pourquoi pas avoir une candidature, pas seulement un seul pays, mais qu'il y en ait plusieurs, ouais, pour partager les coûts, parce que ça coûte de plus en plus cher d'organiser une telle compétition. Quoi.
C'est très opportuniste, en fait. Enfin,
mais le problème,
c'est pas nouveau, hein, mais...
Ouais. Le problème du Maroc, alors, c'est qu'ils ont eu l'occasion de la faire, et ils l'ont annulé. Ils avaient tout pour la faire, ils ont les hôtels, ils ont tout, ils ont les stades. Mmh. Et il y a un truc qui n'a pas été clair. Bon, après, on l'a dit que c'était Ebola. Moi, je pense pas que c'est Ebola. Je pense que c'est plus politique, où il y avait une Coupe d'Afrique qui allait vraiment se construire là-bas, et un truc où ça allait bien, bien. Moi, j'aurais aimé voir cette Coupe d'Afrique au Maroc. Ils nous l'ont annulé à 15 jours de la Coupe d'Afrique. Ils nous l'ont annulé. Après, ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ouais. Voilà, ça a été le relais de l'Afrique du Sud. Mais le pays du Maroc, c'est quand même un pays où il y a un engouement touristique. Un engouement touristique extraordinaire, c'est un pays, ils ont un peuple extraordinaire. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment les instances politiques peuvent annuler cette CAN au Maroc. Après, quand on dit on va la faire au Maroc, après, moi ce qui m'intéresse, c'est de la faire vraiment dans certains pays africains, de structurer les pays africains. Comme Kevin, toi, tu connais bien le sujet au niveau pour développer l'Afrique et pour faire comprendre, parce qu'il y a quand même des gens qui réclament un petit peu une reconnaissance en Afrique. Ouais. Et cette reconnaissance, on peut l'avoir à travers le football, à travers le sport. Quand je regarde Eto'o aujourd'hui, il est au milieu de Blatter. Je pense qu'il a défendu un petit peu le côté du Cameroun. Et peut-être il est peut-être pas assez entouré pour affronter Alfantino dans sa gestion.
Mais je pense qu'effectivement il y a ce côté de pas être assez entouré.
Ouais.
Mais après, ce qui peut ressortir aussi parfois, c'est que parfois si l'Afrique marche pas de manière unie, ça se trouve de manière politique.
Oui, il y a un ego.
Mais aussi dans le manière du foot aussi, et que parfois effectivement l'Afrique devrait peut-être être plus solidaire. Et peut-être réfléchir en termes de continent à quel pays pourrait accueillir une Coupe du Monde pour pouvoir effectivement passer le stade supérieur. Et voilà, effectivement, ces problèmes-là, internes entre les différentes nations africaines, plus aussi effectivement toutes les bisbilles qu'il peut y avoir au niveau de la FIFA ou pour l'organisation d'une Coupe du Monde, avec le fait qu'il y a une fédération à vote et que voilà, parfois on l'a vu avec le Qatar, c'est des conditions d'attribution un peu bizarres. Ça pose toujours sa question.
En tout cas, tu l'as dit, c'est pas que c'est un peu bizarre, c'est la puissance de l'argent qui fait la différence. Ouais. Aujourd'hui, le Qatar, ils sont là pour montrer l'image du Qatar, qu'ils ont un pays qui est structuré. Ils sont à Paris,
ils sont dans
pas mal de pays européens pour exister. Derrière cette Coupe du Monde, il y a tout un business politique derrière, qui va être intéressant pour les Qataris. Parce qu'on voit le football, mais on voit pas ce que eux, les investissements qui sont faits, pourquoi ils sont faits. Maintenant, moi je trouve que c'est bien. Tu fais découvrir un pays qu'on connaît pas et que tu veux découvrir, et ben tu mets ta puissance d'argent et ils savent. Et le problème, c'est que le Qatari, eux, c'est eux qui gèrent leur argent. C'est pas comme les Africains, c'est pas pareil. C'est deux écoles au niveau business, au niveau de cela.
Ouais,
et après, quand tu dis, t'es mal entouré, il y a un ego entre eux qui à un moment donné doit fonctionner, mais ça reste parce que les conseillers des gens du Qatar, c'est quand même des gens qui savent de quoi ils parlent politiquement, dans ce qui se passe dans le monde, quoi que ce soit. Ouais. Et j'aurais préféré, même il y a des Africains qu'on met pas autour d'une table, qu'on met pas autour d'une table pour gérer ce côté.
De toute façon, l'argent reste le nerf de la guerre, et puis le Qatar, on a beaucoup, parce qu'effectivement, avec les.
On va essayer d'en parler, taper le doigt où il fallait, c'est tout.
Ouais.
Mais bon, après, moi, les Qataris, c'est un pays que je connais pas.
Ouais.
Je les connais à travers le PSG. C'est comme ça que j'ai connu. Après, je sais qu'ils ont investi, ils ont investi en face à l'île Saint-Louis. Ils ont investi beaucoup d'argent dans l'immobilier, tout ça. C'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen. Le pétrole, il coulait à flot. Peut-être, il y aura peut-être moins de pétrole et ils sont en train de préparer les 40 ans qui vont venir.
Voilà.
Et aujourd'hui, c'est grâce à ce football qui est médiatique. Eh ben, tu médiatises ce football européen, tu médiatises ce pays à travers ce pays.
Voilà, on a Stéphanie, Jason ou encore Malik qui sont tout à fait d'accord avec toi. Et là, on jambe ce soir notre boula national. On va s'attarder, avec notre invité, Kevin Vessière.
Time Sport. The Special One. The Special One.
Mais oui, c'est l'invité spécial de ce soir. Après des mois de travail, comme vous l'avez annoncé, Kevin, hein, justement, vous étiez heureux de nous annoncer Football Club Géopolitique. 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Oui, le monde que du football? Non, pas que. Ouais, pas que, sport.
Que du football. En fait, dans ce livre qui est sorti en juin dernier, c'est ça. Je fais 22 histoires un petit peu qui vont du Groenland, île de Pâques, Kosovo.
Ouais, dans le
et
temps.
Je pars finalement d'une situation football. Je parle pas tellement de football que ça. Bien et sûr. Après, ça me permet de découvrir le pays, de comprendre un petit peu la situation, d'aller un petit peu plus loin. Et j'essaie de faire ça dans un chapitre de 6-7 pages pour faire de quelque chose d'assez synthétique qu'on puisse lire et que ça soit un petit peu une porte d'entrée pour apprendre à découvrir plus le pays ou la situation politique en question. Quoi.
Football Club Géopolitique, préfacé par un certain Pascal Boniface, aux éditions Max Mino, que vous pouvez vous procurer au point de vente habituel. Justement, on aimerait s'attarder avec vous, Kevin, sur le président de la FIFA, Infantino, rétro-pédalage, excusez-moi, après ses propos déplacés sur l'Afrique. Le président de la FIFA a tenu à expliquer justement ses propos sur le besoin de donner de l'espoir aux Africains. Vous voyez, dans le cadre d'un débat sur une Coupe du Monde qui allait se faire tous les deux ans. Vous en pensez quoi? C'est vrai que ça fait tant jaser, excusez-moi, sur les réseaux sociaux et pas que.
Bah là, c'est vrai que non, Infantino, il s'est pris les pieds dans le tapis à trop vouloir défendre sa Coupe du Monde tous les deux ans et qui est voulu par personne.
Comment faire aussi pour la faire tous les deux ans?
Après, il y a des questions de calendrier. On a vu que Arsène Wenger avait été débauché par la FIFA pour faire une grande enquête et pour montrer tous les bénéfices qu'avait cette Coupe du Monde tous les deux ans. Mais finalement, ça va faire toujours plus de matchs dans le calendrier. Après, derrière, il y a quand même derrière les footballeurs, même si il y en a qui sont très forts. Enfin, on l'a vu avec la CAN, les joueurs vont arriver parfois, à bout. Et donc, on va pas forcément avoir des matchs, les fameux matchs en jeu qu'on veut tout le temps. On va avoir des joueurs qui vont plus pouvoir les faire parce qu'ils sont soit blessés, soit ils seront plus au niveau. Et après, cette Coupe du Monde tous les deux ans, là, avec sa sortie catastrophique au niveau de dire que ça donnerait de l'espoir aux Africains de l'ouvrir. Finalement, faut plus le voir pour la FIFA. Ce qui est important, c'était effectivement de faire sa compétition dans différentes parties du continent.
Ouais.
Mais c'est surtout aussi pour parce qu'après, t'as une logique de réélection les voix des fédérations. Mmh. Et donc l'idée, c'est d'internationaliser la Coupe du Monde pour la faire un peu partout. Mais après, ça pose la question, effectivement, dans quelles conditions tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait dans un pays comme ça et tu construis des stades et après tes stades, tu les laisses à l'abandon? Ou est-ce que tu essayes de réfléchir à un projet un petit peu plus, territorial pour que ça permette au pays en question de sortir grandi de cette Coupe du Monde, quoi?
Oui, on n'en sort pas grand, peut-être. Avec l'UEFA, avec la FIFA, tous ces problèmes, la crise sanitaire qui est toujours présente. Ouais, allez-y, dites-nous.
Non, mais ça dépend.
Ça dépend. Ça mène tout, vous savez.
Ça dépend de la compétition. Après, tu vois, l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2010, je sais pas si elle est sortie grandite, et le Brésil en 2014 non plus. Mais
avec les JO aussi.
Avec le CIO aussi, c'est effectivement, mais ça dépend. Voilà, si en plus tu le fais dans un pays, on voyait les JO de Londres en Russie, c'est une autre question, mais les JO de Londres, finalement, la Grande-Bretagne est plutôt sortie grandie. Après, pour d'autres compétitions qui sont organisées dans des conditions un peu plus particulières. Là, la question se pose. Et puis, pour la question du Qatar aussi, effectivement. La question qui va être intéressante, c'est que ça va permettre effectivement d'ouvrir la Coupe du Monde à un autre pays et pourquoi pas de découvrir ce coin du globe pour des millions de supporters qui ne l'ont pas encore connu.
Bien sûr.
Mais est-ce que finalement, on ne va pas retenir que les conditions de travail des travailleurs qu'on construit dans les stades?
Ouais.
Est-ce qu'on ne va pas retenir que le fait que ce soit organisé dans des stades climatisés? Est-ce qu'on ne va pas retenir que ça? C'est la question. Est-ce qu'on va retenir le côté découverte culturelle ou est-ce qu'on va retenir plutôt l'aspect critique? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira après la Coupe du Monde, effectivement.
Oui.
Ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent faire une Coupe du Monde tous les deux ans. Ils ont déjà un problème avec l'Afrique. Quand il faut les Coupes d'Afrique, les championnats européens, ils sont là à dire les joueurs, ils veulent garder leurs joueurs pour l'Europe. Et en plus de ça, ils veulent faire une Coupe du Monde. Ce qui veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu vas faire comment avec les joueurs africains? C'est-à-dire qu'au lieu de gérer un côté la Coupe d'Afrique, de bien la gérer avec la Coupe du Monde, non, eux, ils s'occupent plus du côté business qu'ils ont à faire. Et ça, et ce qui est dommage, c'est qu'un mec comme Arsène Wenger, qui est d'accord, moi, quand je vois des clubs, il a le respect du médical des joueurs, il a le respect de la santé des joueurs. Et puis c'est quand même des points sensibles. On fait pas parler des médecins, on fait pas parler de médical. On parle qu'à des businessmen qui veulent faire du chiffre. Moi, Platini, quand il a fait le championnat d'Europe avec la Pologne, il a pas regardé si c'était un pays riche. Il a vu que c'était un pays pauvre. Et qu'il fallait qu'il existe. Il l'a fait avec deux pays. Il a mis la Pologne et ça a donné ce plaisir à la Pologne. Ça a fait exister un petit peu la Pologne. Et puis tu prends Platini, il avait ce côté humain, ouais, des choses. Tu prends Infantino
a beaucoup travaillé avec Platini. Hein.
Non mais non, Alphantini, c'est l'élève de Platini.
Oui.
Et aujourd'hui, ce qui s'est passé,
ouais,
c'est qu'ils ont tout fait pour écarter Platini, parce que politiquement Platini, il avait ce côté humain des choses.
C'est Alphantino qui l'a écarté, hein.
Non mais
c'était bien.
Non mais
ça c'est rien à voir.
Après il y a un mec comme Platini qui aime le football, qui connaît le football,
ouais,
et qui est différent d'Arsène Wenger. Pour moi, qui est différent d'Arsène Wenger, je pense que c'est quelqu'un. Qui a été inculpé d'un truc, mais après t'as l'homme et t'as l'homme. On avait la chance d'avoir un Français qui gérait bien, qui faisait bien son boulot. Et ça, il y a des gens qui n'en parlent pas parce que c'est Platini, c'est quelqu'un qui dérange.
Oui, Sarah. Réaction avec Kevin Messier, notre invité ce soir.
Moi, je vais un peu recentrer le débat sur les propos d'Infantino. Ouais. En fait, je trouve que la corrélation entre les migrants et un mondial tous les deux ans,
ouais,
elle n'a juste pas lieu d'être.
Rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir. À l'entendre parler, on pourrait croire que avec son projet là, il va réduire. Les problèmes migratoires et taire tous les maux MAUX du monde. Donc non, c'est un argument géopolitique en fait. Ça n'a absolument aucun rapport et Kevin sera bien placé pour le dire. Mais au-delà de ça, en fait, après ça soulève quand même des problématiques comme les droits TV. Enfin voilà, on sait que les championnats africains ils sont pas c'est pas ça malheureusement. Il n'y a pas de modèle économique très fiable et viable. Donc en soi, ça peut soulever de vraies problématiques. Après, moi, la déclaration, personnellement, je la comprends pas. Enfin, je vois pas où il veut en venir, à part soutenir coûte que coûte son projet de mondial tous les deux ans. Après, effectivement, quand il dit une chose qui est entendable, c'est lorsqu'il dit que la plupart des grands joueurs, tous les grands joueurs évoluent sur le continent européen, donc il n'y a pas grand intérêt pour nous, Européens, de voir cette Coupe du Monde tous les deux ans, mais en revanche, ça pourrait aider les Africains à progresser, etc., etc. En tout cas, ça peut se comprendre.
J'ai l'impression que ça va tuer cette Coupe du Monde. Parce que déjà, il y avait charme. Déjà, on sait tous qu'on attend tous 4 ans pour voir une Coupe du Monde. Là, tu vas en mettre une tous les 2 ans. Moi, perso, pour moi, je pense que ça va tuer ce charme-là déjà.
Bien sûr.
Je pense que ça va au-dessus du foot. Parce qu'il y a toutes ces histoires qu'on sait très bien que l'Afrique, elle a été colonisée. Il y a pas mal de pays qui ont été colonisés par pas mal de pays européens. Il y a aussi ça, je pense que ça y joue aussi parce qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer sur le continent africain et eux, ils savent très bien ce qui est en train de se passer.
Tu vois le problème du Mali.
Et je pense que c'est une question juste pour essayer d'avoir un peu plus la main prise parce qu'ils sentent que les choses sont en train de leur échapper.
Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est alors toutes les fédérations européennes, sud-américaines, elles sont contre ce projet de mondial tous les deux ans. Les 54 fédérations africaines le soutiennent, il y a des intérêts économiques derrière.
Bah ouais, c'est ça.
Et en fait, le fait d'avoir ce genre de propos, je me dis, mais à un moment, il faut se réveiller. Alors, il y a des intérêts financiers, économiques derrière qui font que. Mais enfin, je trouve ça déplorable. Et quand il revient sur le nombre de morts au Qatar, quand bien même, en fait, qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait. Enfin, on s'en fout du nombre de morts, il y a des morts. Déplorable. Et lui, non, il revient sur ce nom. Enfin, je trouve ça aberrant, vraiment.
Comme ça, comme disait Kevin. Les gens qui sont autour de la réflexion africaine, aujourd'hui, que ce soit les présidents de la CAF ou tout le système de la CAF, qui sont main dans la main avec Infantino. Et tous ces petits problèmes-là, ou que c'est dommage, c'est qu'on n'a pas dans cette CAF, on n'a pas des anciens joueurs. Parce que les anciens joueurs, ce qu'ils ont vécu en Europe, ce qu'ils ont vécu ceci, l'injustice, les trucs, ils seront eux, c'est les mecs qui défendront mieux l'Afrique. Les pauvres Africains, ils sont représentés. À l'époque, c'était Aïssa Hayatou. Lui, c'était pareil. Fallait qu'il s'arrange. Je m'en rappelle avec le président, notre président de fédération algérienne. ben, ils s'arrangeaient pour avoir tous les jours les joueurs qu'on jouait en espoir qui pouvaient être sélectionnables. Et ben voilà, ils leur ont donné une petite carotte ou je sais pas. Et après il y a eu tout un business pour la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est parce que la Coupe du Monde au Qatar, elle a été votée par aussi par la CAF, aussi parce que les voix, ils en avaient besoin pour voter ces voix-là. Et ces voix-là, ils ont été quand même achetés. Et c'est là que
c'est toi qui t'avances.
Non mais c'est pas que je m'avance. Ouais. Kevin, t'inquiète pas,
Kevin, de ce côté-là, il est bien placé.
Il y a des livres qui sont sortis là-dessus pour effectivement prouver qu'il y avait eu un achat de cette Coupe du Monde au niveau du.
On taquine Boula.
Vessière, est-ce que tu as connu l'arbitre de Vessière?
Ah ouais. J'étais passé une fois sur l'After RMC et Jérôme Rodin m'a fait la même et pourtant, pas bien de parenté avec l'arbitre.
Il avait même des chevaux. Il avait même des chevaux. Mais effectivement, c'est un bon arbitre. Hein.
Enfin, moi, quand je voyais ce nom, je fais ah bah voilà, quelqu'un peut-être de ma famille. Ouais. Non, on est
non, pas de lien de parenté. Ouais.
Pas du tout. J'ai pas voulu après faire arbitre.
Pas du tout. Voilà.
Non, mais on après parle. Pour revenir sur la déclaration de Dean Fantino.
Kevin,
merci. Ce qui est bizarre avec sa déclaration, c'est qu'en fait, il nous dit que le fait de faire une Coupe du Monde tous les deux ans, ça va permettre à plus de pays d'y participer. Il y a cette volonté un petit peu de d'ouvrir la Coupe du Monde à tout le monde. Alors que finalement, en 2026, la Coupe du Monde, elle a lieu. C'est Canada, États-Unis, Mexique. Mmh. Et là, la Coupe du Monde sera ouverte à plus de pays. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas 32 pays. Il y en aura beaucoup plus. Il y en aura plus de 40. Et donc là, déjà, cette Coupe du Monde sera déjà plus ouverte. Donc c'est vrai que son argument son argumentaire est catastrophique.
Bien sûr.
En plus, de dire qu'une Coupe du Monde tous les ans, ça va permettre. Avoir de plus de pays qui vont y participer. Finalement, ce sera déjà le cas pour la prochaine Coupe du Monde. Et après, est-ce que aussi, une Coupe du Monde tous les 4 ans, des Jeux Olympiques tous les 4 ans, est-ce qu'en faire une tous les 2 ans, on va pas perdre un petit peu ce côté, rareté, unique, et le fait de l'avoir tous les 2 ans, on va peut-être se dire, finalement, au bout d'un certain temps, les supporters, ils vont se dire, c'est encore la Coupe du Monde, c'est un peu le même débat qu'avec la Super League, c'est-à-dire faire une compétition où tu vas avoir des matchs en jeu tout le temps. Tu vois un PSG Bayern, mais est-ce que tu as envie de le voir? Enfin, si tu le vois toutes les semaines, je pense c'est que.
Pas faux, il n'a pas de temps, le Fala. Oui, Fala, on termine avec Sarah.
Mbappé, il était monté au créneau lors de la cérémonie qu'il y avait eu à Doha, je ne sais plus c'était quelle remise de récompense. Il était monté justement au créneau que lui, il ne voulait pas d'une Coupe du Monde claire, nette. Il était catégorique qu'il n'en voulait pas une tous les 2 ans.
Oui.
Tout simplement parce que ça.
Tu aurais peut-être le football, c'est ça?
Mais c'est ça, et en plus, c'est l'intégralité physique des joueurs. Après, ils vont nous raconter, on va trouver des solutions, tout ça, pour que les joueurs, au final, à la finalité, dans l'année, ils vont jouer tant de matchs. Mais on a bien vu, au final, ils refont des. L'Euro, on revoit bien, ils ont refait la formule, au final, c'est les 3 premiers qui passent, donc tu vois bien, ça, il n'y a plus de.
Ouais.
Tu vois, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de. Tu dis, c'est pas grave, le troisième, il s'en fout, il passe quand même, il fait un nul, une victoire.
C'est plus comme avant.
Tu vois, c'est plus comme avant.
On est assez nostalgique, c'est ça qui est.
Ouais, c'est ça. Et le fait qu'Mbappé, il est monté, c'est dommage parce que derrière, il y a Lewandowski aussi qui était monté aussi un peu derrière. Mais je pense que si les grandes stars du football, ils montent et ils s'acharnent dessus, ils disent que non, on n'en veut pas.
C'est moi
qu'ils vont écouter ce qu'ils ont à dire.
Sarah, on termine. Avant la pause, la dernière.
Non, ben moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que justement. Cette Coupe du Monde tous les 4 ans, on l'attend c'est ça qui fait le charme. Et voilà. Mais je me souviens que Wenger défendait ce projet de mondial tous les 2 ans en disant que les spectateurs étaient de plus en plus demandeurs de compétition, de foot, et que cette Coupe du Monde tous les 2 ans viendrait répondre à une demande, un besoin, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas en fait qui demande ce.
C'est
mondial tous les 2 ans, à part les instances de la FIFA.
C'est bien quand tu fais ça. Si tu diminues le championnat, t'as 18 clubs, tu te dis, tiens, la santé des joueurs, tu vas faire la Coupe du Monde tous les 2 ans, tu mets des championnats à 16, et là, tu règles ton problème au niveau santé, au niveau médical.
Tu rajoutes ça par-dessus.
Parce que quand tu dis, il y a la Coupe du Monde tous les 2 ans, mais le championnat d'Europe, c'est quoi?
C'est ça aussi.
Il y a le charme du championnat d'Europe, qui est très intéressant. Qui est très intéressant. T'as la Copa América. Je trouve que tout est bien organisé. Je veux dire, nous, on n'était pas là. On était jeunes, on était gamins. Tout a été organisé. Aujourd'hui, on veut casser le système du football par de l'oseille, par du business.
On veut faire des matchs en jeu tous les week-ends et tous les étés. C'est une grande compétition.
Ça, c'est le sport.
Et reste avec nous, Kevin Vessel. On va faire une courte pause.
C'est l'opium du peuple. Ouais, c'est et le bien, genre. C'est pour ça que je reviens toujours à ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, comme c'est l'opium du peuple.
Le problème, c'est qu'on est contre, mais on la regardera tous, même si elle a lieu tous les deux ans.
Tous les deux ans, on la regardera. Mais je pense que ça tuera cette magie justement de cette Coupe du Monde. Après, c'est comme l'Euro, hein. Même l'Euro, on la mettrait tous les deux ans, ça serait pareil. Hein. Ça serait
non, mais je pense que c'est comme la Super League. Enfin, voilà,
ouais, la
on
Super
est
League,
tous montés au créneau et pourtant.
La Super League arrivera, je crois. Hein. Ouais. Ah oui, ça a été redessiné la NBA. Pourquoi pas la Super League aussi ou la Champions League. À voir. Kevin Vessière, il va rester avec nous. On va essayer de parler, de synthétiser un peu tous ces enjeux géopolitiques, notamment avec, ben pourquoi pas, de nous parler aussi de ses travaux. Argentine, par exemple, Angleterre et les Malouines. C'était les Malouines justement dans les années 80. Vous voyez le but de la main de Dieu d'un certain Diego Maradona. Alors on va faire pour le plus grand plaisir de Yanis une courte pause avant de revenir avec tout le monde.
Time Foot revient dans un instant.
Revient dans un instant.
20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Sarah, Fala et Boula, sans oublier notre invité Kevin Vessière, avec ce magnifique livre sorti depuis juin dernier, Football Club Géopolitique, aux éditions Max Milo, avec en préface de Pascal Boniface. C'est bien ça.
C'est ça, tout
voilà, fait. C'est ça. On a parlé du football africain, football européen, voire football sud-américain pour le plus grand plaisir de Sarah et Fala. Et ben, on va s'attarder encore sur ces fameuses histoires. Pourquoi l'Espagne de Franco a-t-elle refusé de jouer contre le RSS à une certaine époque? Et aussi pourquoi un certain Juan Cruyff ne s'était pas rendu dans la Pampa en Argentine en 1978, c'est ça? Ouais, par exemple. Voilà, on peut retrouver aussi tous ces travaux, Kevin, sur le site internet magnifiquement et fraîchement bien fait, Football Club Géopolitique avec à la fin de géopolitique cs.fr. Justement, vos travaux, comment vous les partagez? Comment voilà, vient cette envie, admettons, de travailler sur, allez, sur le Qatar 2022, allez, pourquoi pas sur l'archipel des Comores qui nous a fait tant vibrer sur cette phase finale. En plus, je crois que c'est le dernier podcast ou l'article qu'on peut voir.
C'est la CAN, donc on met en avant les pays africains, surtout ceux qui sont pas forcément les plus connus, Comores, Guinée équatoriale.
Ouais.
Après, pour mes différents sujets, pour parler un petit peu de la genèse du projet, j'ai lancé l'UFC Géopolitique il y a deux ans. À la base, c'était un média, je voulais faire simplement des articles qui mêlaient football, géopolitique pour comprendre un peu mieux les enjeux internationaux par le prisme du football, parce que les relations internationales, ça peut être assez barbant quand on les prend comme ça de loin. Donc après, avec le prisme du football, ça peut être plus intéressant. Et j'ai commencé à lancer ces articles-là. Et après, je me suis dit, pour les faire lire, faut que je trouve un moyen de le partager de manière un petit peu novatrice. Et j'ai commencé à faire des threads sur Twitter. Donc c'est des genres de, j'appelle ça un peu des bandes dessinées sur Twitter, parce que tu défiles et t'as toujours une illustration, une idée assez courte, assez synthétique. J'ai commencé à développer ça et là ça a tout de suite plu. Et donc là maintenant ça fait deux ans et il y a plein de projets qui se mettent en place. Donc il y a plus de 45 000 abonnés. Il y a le livre qui est sorti. Ouais. Et après je fais des chroniques effectivement sur Bein Sport aussi pour parler
aussi
de ça.
Aussi sur le confrère de Bein Sport.
Et tout à l'heure tu parlais de Argentine-Angleterre durant la Coupe du Monde 86. Ça a été l'objet de mes chroniques sur Bein Sport et c'est aussi dans le bouquin.
Bien sûr.
Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est on a toujours cette image de la main de Dieu, de Maradona qui dribble 5 joueurs anglais.
Comme un fou, Maradona.
Et par contre, ce qu'on sait, effectivement. Et par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'effectivement, ces deux buts de Maradona, c'était vraiment vécu en Argentine comme Maradona qui vengeait l'Argentine parce que quelques années auparavant, t'as eu une guerre entre l'Angleterre et l'Argentine autour de petites îles qui s'appelaient les îles Malouines. Et l'Angleterre va gagner et l'Argentine du coup va perdre cette guerre. Et donc là, c'est un peu la revanche sur le terrain du football parce qu'on sait effectivement que peut y avoir ce parallèle.
C'est cette revanche, hein.
Ce parallèle sur le terrain du football entre équipes nationales, sur le fait que t'aies les hymnes, les drapeaux.
Ouais.
Parfois, ça peut être aussi à remplacer la guerre. Et derrière ces 11 joueurs, tu peux avoir un petit peu cette image d'une armée. Que maintenant, finalement, même si effectivement il y a toujours des conflits, il y a quand même moins de guerres en tout cas entre grandes puissances que par le passé.
Bien
et
sûr.
On voit qu'il y a aussi cette bataille au niveau, pas que au niveau football, au niveau, parce que aussi, enfin, du coup, je m'ouvre un peu plus au niveau des Jeux Olympiques parce qu'il y a Paris 2024.
Ouais,
tu vois, États-Unis, Chine, il y a toujours cette bataille pour les médailles, quoi.
En 1998, on se souvient, le 21 juin plus précisément, le fameux USA-Iran. On se souvient dans les années 80. C'est fou quand même, hein.
Tout à fait.
Ça s'est passé sur le sol français, là aussi.
Ouais, c'était à Lyon.
On est en plein géopolitique.
Dans le stade de Gerland, tout à fait. Et là, c'est un peu, comment dire, effectivement, là, il n'y avait pas de relation diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Et avec ce match-là, c'était un peu la reprise des relations diplomatiques. Bon, après, si on, enfin, ce sera l'objet. Enfin, je vais faire. De toute façon, il y a un deuxième bouquin qui est prévu avec l'histoire autour de la Coupe du Monde. Mais pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, même si c'est, il y avait un match de foot entre les États-Unis et l'Iran et qu'il y a cette reprise de relations diplomatiques, finalement, en fait, il y avait déjà des relations, comment dire, politiques un petit peu en loose day pour faire en sorte que ça se reprenne ces relations diplomatiques. Et le match-là était tout trouvé pour que ça illustre cela. Et on va voir que, enfin, cette illustration va être, enfin, dire faite de manière très, enfin, à coup de genre, les joueurs vont être ensemble sur la photo, ils vont s'échanger un bouquet. Donc on voit que c'est finalement quand même assez instrumentalisé pour montrer qu'il y a une reprise de relations diplomatiques entre deux États qui ne se parlaient plus depuis 1979 et la révolution iranienne. Et donc c'est vrai que là ça a été vraiment mis en lumière avec ce match-là. Et en plus c'est vraiment le hasard, hein, parce que c'était un tirage au sort qui a eu lieu pour cette compétition-là, pour la Coupe du Monde. Et c'est l'Iran qui va gagner, et effectivement. Et là aussi ça va être repris, réinstrumentalisé politiquement, parce que c'est l'Iran qui gagne contre les États-Unis. Et c'est un match de football certes, mais le titre c'est Iran gagne les États-Unis, donc ça fait tout de suite, ça peut toujours tout de suite aller sur d'autres champs.
Et d'accord, voilà, justement, des travaux assez intéressants.
Kevin, ta relation par rapport à tout ce que tu crées, tout ce que tu fais au niveau géopolitique, est-ce que tu as un contact avec la FIFA pour parler de tout ça sur une vraie campagne de réflexion au niveau géopolitique par rapport au football ?
Non, moi j'ai pas de contact avec. Avec la FIFA, après, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait aussi de sujet, sur la FIFA en tant que telle. Ça pourrait être l'objet d'un de mes prochains travaux, effectivement, de voir comment ça s'est construit et pourquoi est-ce que finalement cette organisation de football aujourd'hui c'est devenu une organisation internationale qui a peut-être même plus de poids que l'ONU ou ce genre d'organisation.
C'est un État.
Ouais, voilà,
c'est un État.
Oui, c'est un État.
C'est ce que Avalanche disait.
Ouais.
Au niveau du personnel professionnel qui travaille dans le football. C'est pire qu'un État, la FIFA. Là.
C'est un État, et en plus, tu le vois avec, par exemple, tu vois le Kosovo. C'est un État qui est, j'en parle dans mon bouquin, c'est un État qui est pas reconnu internationalement par tous, notamment par la Russie et la Serbie, qui contestent l'existence de ce territoire. Et pourtant, ils ont une équipe parce qu'ils ont été reconnus par la FIFA, après par l'UEFA, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, en tout cas, la FIFA.
La FIFA les a
reconnus depuis 2016. Au niveau de l'ONU, ils sont pas présents parce que la Russie met son veto. Donc on voit que finalement reconnu par une organisation sportive, ça peut avoir parfois plus d'importance que d'être reconnu par une organisation plus politique.
Et sur les chaînes françaises comme TF1, comme ils ont une émission sur le football, est-ce qu'ils t'ont sollicité sur des...
Non, pour l'instant, non.
Le problème, c'est que
t'as quelqu'un qui a une réflexion, qui travaille au niveau géopolitique,
je vais poursuivre
et je trouve ça dommage.
Justement,
toute chose prend du temps, donc c'est pour
on
ça.
On va laisser nos confrères de TF1 gentiment le dimanche matin. C'est bien ça, Sarah. Mais je vais poursuivre ta question. Est-ce que, par exemple, on parlait de Paris 2024 tout à l'heure avec Vala et Sarah, est-ce qu'on vous a sollicité justement? Avec ses travaux mis en avant.
Pour l'instant, non.
Mais ça, c'est l'avenir.
Après Paris 2024.
Et Kevin, c'est l'avenir aussi.
C'est quand même assez loin, mais là, il y a plein de choses qui se mettent en place avec France Info, où j'ai fait un article sur les origines politiques de la CAN. Il y a des chroniques avec beIN Sport. Donc, en fait, c'est juste que c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se construire doucement.
beIN Sport, avec le Qatar.
Ouais.
Avec le Qatari.
Ouais, mais bon, après,
Il est humeur taquine ce soir, il n'est pas d'habitude, il n'est pas comme ça.
Je suis content que le Qatar s'intéresse à un comme toi. Et BFM, t'as vu, regarde.
Justement, pourquoi pas. On va réinviter, Kevin, pourquoi pas. Moi, je fera son billet d'humeur aussi, ça serait assez intéressant.
Moi, je vais partout, il n'y a pas de problème à parler de géopolitique, du sport et du football.
Et on accueille tout le monde, ça c'est parfait. Kevin, on va s'attarder avant la fin de cette émission sur la Ligue 1 Uber Eats. Eh oui, voilà qu'il a tant connu, il a foulé ces stades-là. Eh oui, Sarah. Elle avait une question, Sarah. Désolée, Sarah.
Vous étiez intéressée aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Est-ce que tu t'es intéressée aux Jeux méditerranéens?
Non, pas encore, effectivement. Non, je me suis intéressée, tu vois, au cyclisme, aux Jeux Olympiques. Je me suis intéressée aussi au rugby. Les Jeux méditerranéens, pas encore effectivement, mais ça peut être une piste pour un peu, m'ouvrir, pas faire que football, parce qu'on voit que ça touche à différents sujets.
La dernière rubrique, excusez-moi, de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Il reste avec nous, Stéphanois peut-être, Kevin? Non, parisien dans l'âme?
Non, mais on, là on on parle de Saint-Etienne.
Ah, Saint-Etienne.
On parle d'un
c'est
concurrent
ça.
Direct à la descente. Moi, je suis fan des Girondins. Donc,
ah, il est Girondin. Louis-Marie, Girondin. Mais il n'est pas là, Louis-Marie. Il nous écoute ce soir, en plus. Louis-Marie. Alors, bon. Saint-Etienne qui met fin à sa série noire de 7 défaites en s'imposant, excusez-moi, du côté d'Angers. 1-0. Et oui, ça va, ça fait plaisir. En tout cas, hier, il était heureux, Yacine.
Ouais, enfin.
Ouais, toi, non.
Non, je suis contente pour, pour les Stéphanois, j'ai envie de dire. Voilà, tant mieux, content. Ça met fin à cette série, cette défaite, c'est ça? Donc,
ouais, cette défaite.
Après, faut pas s'arrêter à là, hein. Enfin, faut pas s'arrêter à
bon,
ça.
C'est déjà bien,
faut voir,
ce début de 2022.
Voilà, après, honnêtement, pour parler du match, très bon en première mi-temps.
Oui.
Et je les ai sentis se relâcher en deuxième mi-temps. Et j'avais un peu l'impression qu'on allait revivre le match contre Lens où ils marquent ce premier but et en fait ils reviennent. Enfin, Lens revient derrière et ils perdent. Enfin, Saint-Etienne perd 2-1. Je pensais qu'on allait revivre ça. En fait, finalement, non. Donc, qui poursuivent sur cette lancée. Hein. Ils sont à 2 points maintenant de Lorient, je crois. De,
ouais.
De
4.
Non, 2. 15, non, 15 et 17.
15 et 17.
Donc, 2. Qui ont ouais.
Voilà.
Saint-Etienne. Oh là là, faut suivre. Hein.
22, ouais.
En fait, ce match-là d'hier, c'est un peu. Ça va. Moi, en fait, c'est un peu plaisir pour Pascal Ducroix parce que c'est un coach que j'admire énormément. C'est.
Ouais, il fallait.
Ouais, non, c'est une personne que. Et ça me fait plaisir qu'il, depuis qu'il est arrivé.
Il motive les troupes, en tout cas.
Cette victoire qui a peut-être pouvoir être un synonyme de repère pour cette équipe. Mais après, ça pouvait basculer des deux côtés. Hein. Parce que Angers, s'ils gagnaient ce match-là, ils rebasculaient dans leur partie de championnat. Donc, tu vois, c'était un match. Ils ont été sérieux parce que c'était pas. Angers, il fallait pas les sous-estimer. Maintenant, ils ont eu aussi pas mal de joueurs qui sont partis à la CAN aussi. Angers, faut pas oublier. Ils ont eu au moins 3-4 joueurs et pas des moindres. Donc, bravo à Saint-Etienne. Comme je dis, moi, pour Pascal Ducroix, ça me fait plaisir. Après, est-ce qu'ils vont sauver la course, ça va être dur parce que là, Bordeaux, Metz
ouais.
Et Lorient avec Saint-Etienne, ah, ça va être.
Et t'as le petit Brahimi qui a été transféré à Nice.
C'est ça, il nous le disait c'est hier. Ça. Yacine, un mot pour la fin. Allez, avec Kevin Vessière.
On va être Bordeaux, mais
ouais,
le Bordelais. Saint-Etienne, ils ont une dynamique et Bordeaux va la plus trop. Et puis Saint-Etienne, ils ont des renforts de poids. Donc, ouais, bah, Bordeaux, j'espère qu'ils iront. Après, parfois, une descente, ça peut faire du bien.
Exactement. Moi, je suis pas dans cette optique-là parce que moi, je n'ai jamais dit qu'une descente. Vous pouvez faire du bien, pardon, parce qu'on voit bien une équipe
ouais.
Comme Sochaux, Auxerre,
ah,
Toulouse.
Ouais.
Non, mais là, c'est pas pareil. Quand tu me dis, ça ne va pas leur faire du bien, le problème de Saint-Etienne.
Non, mais
merci, vous l'avez fait là.
Ça peut leur faire que du bien.
Et parce ça, que,
au, ciel, au niveau de la gestion du club, non, c'est catastrophique.
Merci, messieurs, dames, de m'avoir accompagné. Un grand merci à Kevin Vessière d'avoir été avec nous. On le rappelle, auteur de ce magnifique livre, et oui, qui est Football Club Géopolitique aux éditions Maximino, avec un préface signé Pascal Boniface. Vous revenez quand vous voulez, Kevin.
Bah, carrément.
Et j'espère que vous avez passé du bon temps avec nous.
Ouais, tout à fait.
La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. À 22h, vous retrouvez Vanessa avec la réalisation de Giovanni. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli.